Hussarde.
Salut Caro.
Ah, salut Thomas.
Dis donc, t'es toujours là avant moi dans le studio.
Bah ouais, mais moi je fais pas de chronique le matin.
Bon, je vais te chercher des cafés.
Ah oui. Mais alors, avant d'aller chercher le café, écoute ça. J'ai trouvé dans l'émission Affaires Sensibles, c'est une fiction sur Fillon en 4 épisodes, on pourra peut-être commencer par un extrait, ce serait marrant. Écoute, et après on va prendre le café.
La veste. Un feuilleton de François Fillon. François Perrache.
Courage. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Éléonore, calme-toi. Respiration ventrale. Voilà.
Bon allez, on y va. Aujourd'hui, donc, c'est Fillon. Mais alors, même dans le réel, hein, c'est la pire descente aux enfers politiques que j'ai connue. Successivement, il a franchi tous les cercles de l'enfer. C'est du Dante.
Et donc, l'invité, c'est Stéphanini.
Oui, c'est ça. C'est un super commentateur. À croire qu'il veut ma place de chroniqueur politique. Tu vois qui c'est, Stéphanini?
Alors, Patrick Stéphanini, directeur de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995. Patrick Stéphanini a brigué à plusieurs reprises des mandats électifs connaissant à chaque fois l'échec.
Pas mal.
En juin 2013, il est désigné secrétaire général de Force Républicaine, l'association qui porte l'action politique de François Fillon. Avec l'aval de Juppé, il rejoint donc François Fillon, dont il devient directeur de campagne. Le 3 mars 2017, dans le contexte de l'affaire Fillon, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon pour l'élection présidentielle et rend publique sa démission. En novembre de la même année, il publie son livre « Déflagration » qui revient sur l'histoire de cette campagne.
Eh ben, dis donc, à part que t'as oublié Carole Barjon avec qui il a écrit le livre, t'as appris ça où, toi ?
Eh ben, sur Wikipédia.
Ah, d'accord, Wikipédia.
Ben ça va, je bosse, moi.
Allez, on y va. Clap deuxième, aujourd'hui Fillon, avec notre invité Patrick Stéphanini.
Et archive une lors de sa victoire aux primaires.
La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Ma démarche a été comprise. La France veut la vérité et la France veut des actes.
Dans les jardins de la Maison de la Chimie, Grégoire savoure, car s'il est aujourd'hui dans le camp des vainqueurs, être filloniste n'a pas toujours été facile.
Il faut quand même être très courageux, sans me vanter, pour le soutenir depuis 1 an et demi. Bien sûr, il y a des moments de doute. C'est parfois un peu décourageant de voir son candidat vraiment pas dans la bonne position. Mais après, quand même, une grande joie quand on voit la montée, ça fait chaud au cœur. Il ne faut pas qu'il fasse de faux pas, il faut qu'il continue à s'avancer, il faut que les militants continuent à le suivre. Il faut toujours être vigilant et normalement, toutes les portes sont ouvertes jusqu'au deuxième tour.
Et c'était pas gagné parce qu'à droite aussi, les haines, les rancœurs étaient fortes, hein, entre Sarkozy, Juppé, Le Maire, Copé. Il y avait du monde et du ressentiment, je peux te dire.
Ah, on dirait un vrai thriller, ce qui se passe au sein des Républicains, tu trouves pas ?
T'as de l'attaque, toujours l'attaque, et celle-là, vraiment, elle est pas mal. Hein. On met l'archive de Fillon.
Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?
Ah oui, dis donc, en effet, c'est pas mal. Hein.
Attends, tu vas voir, on continue. Là, il pousse encore un peu plus la balle dans le baril.
Épouse et un peu plus que ça, Pénélope Fillon, femme de, a-t-elle bénéficié d'un emploi fictif ? Était-elle la collaboratrice de son époux à l'Assemblée nationale ou mère au foyer, comme elle s'est toujours présentée ? Elle a été rémunérée quelques 500 000 euros en 8 ans, révèle ce matin le Canard Enchaîné, pour un poste d'attaché parlementaire. Rien d'illégal à ça, sauf s'il est fictif. Et le hic, c'est que l'hebdomadaire n'a trouvé aucune trace de son passage. Du plus mauvais effet pour François Fillon, qui se présente comme le candidat de l'éthique en politique.
Revenons à la défense, la première défense de François Fillon qu'on vient d'entendre, misogyne, c'est une défense réflexe, vous y avez réfléchi avec Anne Méo, qui était sa conseillère en communication.
Honnêtement, il n'y a pas eu de réflexion collective sur ce sujet, et nous avons, dans mon livre, j'explique, et je le tiens de Gérard Larcher, que François Fillon probablement a su, dès la mi-décembre, qu'il serait interrogé par, alors je ne sais pas si c'est par la police ou si c'est par les journalistes, je crois que des journalistes ont commencé à lui poser des questions à partir de la mi-décembre sur la situation professionnelle de son épouse.
Ça, François Fillon, sur la revue des Deux Mondes, c'est sur une autre affaire.
Oui, oui, mais c'est quand même la situation professionnelle de son épouse. François Fillon a fait le choix de ne pas nous en parler. Donc je pense que l'essentiel de l'équipe de campagne, à mon image, a découvert ses difficultés à l'occasion de la parution de l'article du Canard Enchaîné. Et à partir de là, au lieu d'avoir une communication réfléchie posée, organisée comme nous aurions pu le faire si François Fillon nous avait mis dans la confidence à la mi-décembre ou au début du mois de janvier. Nous avons été dans une communication largement improvisée. Donc cette formule sur la misogynie, moi je l'ai découvert comme tout le monde en l'écoutant dans la bouche de François Fillon. Et de façon plus générale, au-delà de cette formule sans doute malheureuse et certainement anecdotique, de façon beaucoup plus globale, François Fillon pendant toute la campagne a donné le sentiment qu'il jouait en défense et pas du tout qu'il était à l'offensive et qu'il maîtrisait le sujet.
C'est la surprise générale.
Bah, il y a de quoi, tu vas voir, écoute ces archives, c'est un vrai inventaire, il y en a pour tout le monde.
Des perquisitions aujourd'hui à l'Assemblée, un événement assez rare puisque c'est seulement la 7e fois dans l'histoire de la 5e République que des policiers enquêtent ainsi dans les locaux de la représentation nationale. Bonsoir Sarah Guibaudeau.
Bonsoir.
Que sont-ils venus chercher dans le bureau du député de Paris, candidat à l'Élysée?
Sans doute les contrats que Pénélope Fillon n'a pas été en mesure de leur remettre hier lors de son audition. Ses fiches de paye, ça c'est plutôt au service administratif. Et puis, toute trace qu'elle aurait pu laisser de son travail, de son passage. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup, puisque si travail il y a eu, c'est ce que défend François Fillon, c'était dans la Sarthe. Les enquêteurs n'ont effectivement pas trouvé de badge d'entrée, ni de boîte mail au nom de Pénélope Fillon à l'Assemblée.
Coup de poignard dans le dos, fuite, dénonciation, renoncement, secret, c'est carrément entre les feux de l'amour et Shakespeare.
Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Hein. Écoute, les archives B et C, c'est pire encore.
Le Canard Enchaîné promettait de nouvelles révélations sur le couple Fillon. L'addition flambe et concerne donc toute la famille. On va y revenir dans un instant. Sans attendre hier soir, le candidat de la droite à la présidentielle a crié à la calomnie et au complot.
La justice est saisie. Moi, j'ai confiance dans la justice. Je ne m'exprimerai plus sur aucune des questions qui me sont posées. Je me suis exprimé devant les policiers hier. J'étais d'ailleurs très soucieux d'être entendu très vite. Ils l'ont fait, je m'en félicite, je suis confiant, je suis serein, j'attends désormais la fin de cette enquête.
Et puis François Fillon choisit de dramatiser au maximum la situation.
Il y a ce que j'ai appelé devant mes amis parlementaires ce matin, quelque chose qui ressemble à un coup d'état institutionnel. Je ne vais pas vous dire que je passe un moment agréable, mais je vais vous dire que j'ai choisi d'être candidat à l'élection présidentielle. Et quand on choisit d'être candidat à l'élection présidentielle, on ne vient pas se plaindre ensuite de la violence des attaques. Je serai candidat à cette élection présidentielle parce que je porte un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut permettre le redressement national. Si on veut se retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle entre le projet fou de Mme Le Pen et un candidat, M. Macron, sans aucune expérience et sans aucune majorité, eh bien, évidemment, il faut continuer cette violence des attaques. Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Ce qui était acceptable hier, à défaut d'être accepté, ne l'est plus aujourd'hui. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français.
Les excuses, ça c'était quand même préparé, ça c'est pas de l'improvisation. Vous vous êtes dit, maintenant ça suffit, on s'excuse.
Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, les différents extraits que vous avez fait passer là des réactions de François Fillon montrent qu'il a su réagir et sur le terrain politique et sur le terrain des affaires. Je pense simplement que s'agissant des affaires, il a continué à sous-estimer l'impact des révélations du Canard Enchaîné dans une partie de l'électorat et notamment de la jeunesse. Lorsque l'affaire des costumes a été révélée, il y a un pan entier de la jeunesse de notre pays qui était prête à voter pour François Fillon et qui a dit, à partir de maintenant, c'est plus possible.
Parce qu'en plus, ce sont des affaires très simples à comprendre.
Oui, bien sûr.
C'est pas comme
des montages financiers sophistiqués. Bien sûr. Donc je pense que François Fillon a sous-estimé l'impact de cette affaire. Et puis alors, il a complètement sous-estimé les dégâts politique qu'elle allait créer. Vous avez cité la réaction de François Bayrou. Et ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où sort l'affaire du Canard Enchaîné, on voit les principaux leaders du centre prendre tout de suite leur distance.
Et ce n'est pas fini. Maintenant, c'est la fronde à droite.
Et c'est à ce moment-là qu'il quitte le navire ?
Oui, c'est ça. Enfin, disons que ça commence. Et c'est là qu'on place d'ailleurs l'archive 7, Arlette Grosscott.
De qui ?
Oui, Arlette Grosscott, c'est un drôle de nom, je sais. c'est alsacien, voilà.
Alors, très très mal, je suis désolée de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base, pour le député de base que je suis, qui me disent, mais qu'est-ce qu'on fait ? Que voulez-vous que je réponde ?
Et est-ce que François Fillon peut rester votre candidat ?
J'ai décidé de m'arrêter, cher monsieur. C'est ma réponse.
Voilà, c'est Françoise Grosscott qui est députée du Haut-Rhin, donc une députée parmi d'autres. Ça craque à ce moment-là, Patrick Stefanini.
Pour dire les choses en un mot...
On ne peut plus faire campagne.
Ben, en tout cas, c'est devenu très difficile de faire campagne d'un point de vue technique. Et surtout, François Fillon n'est plus en mesure de conquérir un électorat nouveau. Or, l'élection présidentielle... Elle se joue toujours à la marge dans la République française. Il faut toujours sortir des limites étroites de son camp politique pour aller gagner un électorat qui ne vous est pas acquis au départ. Il faut aller gagner des nouveaux électeurs. Et pour gagner des nouveaux électeurs, il faut être dans une attitude conquérante. Il faut avoir un esprit de conquête. Or, François Fillon, et en disant cela, je lui jette absolument pas la pierre, mais quand vous êtes sous le coup... d'une menace de mise en examen, et quand cette mise en examen se réalise, ça veut dire que la moitié de votre cerveau est mobilisé, non pas pour aller gagner de nouveaux électeurs, mais pour assurer votre défense. Et moi, ma démission, qui intervient le 3 mars, elle est due fondamentalement à cette analyse politique, c'est-à-dire que je pense que François Fillon n'est plus le meilleur candidat pour faire gagner la droite.
Et les affaires s'enchaînent. Donc on met l'archive de Fillon sur sa mise en examen, là ?
Ouais, exactement.
C'est au peuple français que je m'en remets. Parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée.
C'est dingue. Fillon, en fait, il s'arrête pas. Pourquoi il s'arrête pas ? Tout le monde le lâche. Moi, à sa place, je me cacherais au fond d'un trou, je crois.
Ah bah oui, moi aussi, mais lui, non. Il continue, c'est vrai. À ce moment-là, personne comprend pourquoi il s'acharne.
Seule chose, il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen.
Donc là, après cette contradiction flagrante, la droite explose et beaucoup de leaders de droite maintenant se cherchent un candidat de remplacement. À ce moment-là, vous sentez que c'est fini, vous avez des relations avec le terrain, les hommes de terrain, les députés de base. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Non, mais moi j'ai senti à la fin du mois de février que nous n'arrivions plus à faire une campagne utile. Une campagne de conquête.
Mais il fallait changer de candidat. Vous pensiez, vous, qu'il fallait changer de candidat ?
Je pense en tout cas, et c'est le cœur de mon désaccord avec François Fillon, et c'est ce qui me conduit à démissionner, je pense qu'il aurait dû, mais je reconnais que c'était très difficile, il aurait dû se poser la question de savoir s'il était encore le meilleur candidat pour faire gagner la droite.
Qui essayait de lui dire ? Est-ce que vous lui avez dit ? Est-ce qu'on vous a demandé de lui dire ?
Non, je n'ai pas été le seul à le lui dire.
Mais vous lui avez dit ?
Oui, je le lui ai dit. Je lui ai dit le 1er mars au matin, nous avions appris la veille qu'il allait être convoqué pour être mis en examen à la mi-mars. C'est d'ailleurs moi qui ai eu la responsabilité de le lui annoncer le 28 février au soir, le mardi 28 février. Le 1er mars au matin, la nouvelle a été rendue publique. Et je lui ai dit que ça allait être désormais très difficile. Je pouvais pas en faire beaucoup plus. Je lui ai dit que ça allait être très difficile. Il a bien compris ce que ça signifiait. Moi-même, j'ai fini par en tirer les conséquences en donnant ma démission 2 jours plus tard.
Oui, et vous publiez d'ailleurs la lettre de votre démission dans votre livre des flagrations.
Oui, et dans laquelle j'annonce la défaite. Et j'annonce, hélas, ce qui va se passer. C'est-à-dire non seulement la défaite dès le premier tour de l'élection présidentielle, mais la déroute qui s'en est suivie pour nos candidats ensuite aux élections législatives.
Mais il décide quand même d'organiser un grand meeting de défense, puisque finalement, il refuse de se démettre. Vous démissionnez, mais vous organisez quand même.
Oui,
vous êtes un grand organisateur. Vous organisez ce meeting auquel vous ne croyez pas.
Et puis, on continue la descente aux enfers et on arrive à la séquence du Trocadéro.
Ah bah alors là, j'avoue que je comprends encore moins. C'est un truc de dingue, la séquence du Trocadéro. C'est un peu genre, on est tous ensemble et allez, viens, on se jette tous dans le vide.
Ouais, il y a un côté mouton de Panurge. Alors là, on met l'archive interview avec Ciotti. Il nous décrypte toute la séquence. On la monte, ok ?
Ouais, on y va, parfait.
Le temps est...
le temps était pluvieux et l'état d'esprit était aussi un peu morose à l'image de la météo capricieuse ce jour-là.
Sur cette place, nous prononçons le serment du Trocadéro. Jamais nous ne trahirons nos convictions.
Le Trocadéro, c'était pour nous un moment de mobilisation, en tout cas pour moi, mais un moment où on sentait que malheureusement la défaite était probable. Donc c'était un rassemblement où il y avait de la colère.
Je suis venu parce que je suis écœuré de voir tout ce qui peut se passer en amont, en cachette, en sourdine, bien entendu avec la puissance des médias qui portent appui à des noms que je ne citerai pas, mais on les comprend.
Il y avait aussi du soutien à notre candidat, mais il y avait quelque part l'idée que les dés étaient jetés et que la défaite était malheureusement en vue.
Ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls?
C'est vrai que depuis la tribune, cette foule, cette ferveur, les drapeaux tricolores étaient extrêmement impressionnants. J'ai pris personnellement la parole. Ce restera un moment fort de mon engagement politique. Et au fil du temps, au fil des propos, des interventions, de la météo qui d'un coup s'est éclaircie d'ailleurs.
Chers amis, si vous voyez à ma place les milliers de drapeaux qui sont devant moi, c'est vos drapeaux, c'est la France, c'est vous.
À la fin du discours de François Fillon, on s'est repris à... En tout cas, je me suis repris un peu à espérer.
Et alors pour finir, t'as une idée?
Bah non, c'est un peu le problème. Après l'épisode Fillon, je sais pas comment enchaîner. Bah Mélenchon, je vois que Mélenchon, l'insoumis à l'assaut du pouvoir, pas mal, qu'est-ce que t'en penses Caro?
Bah moi ça me va Mélenchon, mais je voulais dire comment on finit cet épisode-là. On pourrait mettre un dernier extrait de la fiction La Veste.
Ah oui, La Veste, Fillon, La Veste, très marrant.
Quand on a parlé de ces costumes qu'un ami vous a offerts, vous avez dit, et alors?
Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président.
Le moment est venu.
Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire.
J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années.
Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
Après tout, personne n'est obligé.
66% contre 34 pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire.
En mars, c'est nous.